Vous écoutez
RMC.
Il est 7h58 et on regarde évidemment la pluie du côté de la Bretagne, Géraldine. Et
oui, mais si ce serait un peu plus calme aujourd'hui parce qu'il y aura des éclaircies, on est toujours en vigilance orange pour les crues de l'Audé, de la Laïta, du Blavé et de l'Oust. Donc plus calme parce qu'il y aura des éclaircies, mais il y aura quand même aussi de la pluie, des averses en tout cas en Bretagne avec pas mal de vent et la pluie qui va traverser tout le pays d'ouest en est. D'ailleurs, cette pluie, quand elle va arriver sur le sud-est, elle va être intense ce soir sur les Alpes-Maritimes en particulier. On pourrait avoir de gros cumuls, donc ça va être à surveiller. Et on aura aussi de la neige qui va tomber à très basse altitude, parfois dès 500 mètres. Les températures toujours très contrastées entre l'est et l'ouest, avec des gelées dans l'est ce matin, mais 16 degrés à Biarritz. Et cet après-midi, on gardera toujours ce temps contrasté avec 6 degrés à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, Bordeaux, 13 à Nice, 15 degrés pour Marseille. Et on n'a pas fini d'entendre parler de la pluie, puisque les perturbations vont continuer de se succéder dans les prochains jours. Et la Bretagne donc sera à nouveau touchée par de fortes pluies à partir de jeudi.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vous accompagne au sport ce matin parce que de plus en plus de Français font du sport. On vous dévoile sur RMC des chiffres en exclusivité. 72% des Français pratiquent une activité physique et particulièrement la course à pied. On va vous expliquer dans ce journal pourquoi la fin des ZFE n'est pas pour tout de suite. Le gouvernement reporte le vote qui devait les supprimer. Et on va vous expliquer aussi le psychodrame du moment dans le ski français à 10 jours ce matin des Jeux Olympiques d'hiver.
Et vous alors, est-ce que vous faites partie des Français devenus accros au sport ?
Cette question, parce qu'on dévoile ce matin sur RMC les derniers résultats du baromètre Sport Santé. Baromètre qui nous apprend que 72% des Français pratiquent une activité physique. Chiffre en hausse depuis le Covid, avec en plus un effet JO. Vous avez forcément constaté le nombre de Français qui se sont mis ou remis à courir là ces derniers mois. Il y a 13 millions de Français qui pratiquent la course à pied, nous dit Martin Bourdin pour RMC.
La respiration bien synchronisée avec la foulée n'empêche pas Alice de souffrir après 7 kilomètres.
Oui. C'est mon record là.
Et c'est presque le meilleur moment de la semaine pour cette étudiante.
C'est vraiment un exutoire vraiment assez complet. Je suis en prépa, donc je suis quand même assez sédentaire. Je peux pas faire plus de 3-4 jours sans faire de sport, quoi.
Courir uniquement pour le plaisir change aussi les journées de tous ces adeptes nombreux à chausser leurs baskets sur la pause de midi.
On est plus efficace dans sa journée, l'énergie de sa journée change.
La course attire de plus en plus, ça se voit sur les chemins de ce bois.
Franchement, il y a un monde de dingue. Si vous venez pas avant 10 heures ici, en fait, on croit qu'il y a déjà une course, tellement il y a de monde.
Ça se voit aussi dans les magasins de sport. 9 millions de paires de baskets vendues en 2024, notamment parce que les Français ont changé leur façon de faire du sport, décrypte Virgile Caillé, le délégué général de l'Union Sport et Cycle.
Aujourd'hui, c'est la multi-activité. Nous ne sommes plus les sportifs d'un seul sport. On s'autorise à faire un peu de running, à aller jouer au foot à 5, à aller faire du tennis. Et donc, forcément, ça guide aussi un peu le marché.
Un marché qui pèse lourd, 1,2 milliard d'euros pour la course à pied, d'après l'Observatoire du running, deux fois plus que pour le foot, par exemple.
Les réseaux sociaux, c'est bientôt fini pour les moins de 15 ans. C'est l'information qui est tombée cette nuit. L'Assemblée a voté pour leur interdiction. Il était vers 1h du matin. Une étape majeure, salue Emmanuel Macron, avant le passage de cette proposition de loi au Sénat, certainement à la mi-février. En revanche, la fin des ZFE, eh bien ça attendra. Un vote était prévu cette semaine à l'Assemblée nationale pour supprimer ces zones qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants. Vous savez, dans certaines villes comme Paris, Lyon aussi. Mais le gouvernement a décidé dans la soirée, eh bien, de reporter le vote à plus tard, sans doute après les municipales, ce qui met en colère les députés opposés à ces ZFE. Vous les avez interrogés pour RMC, hein, Cyprien Pézeril.
Oui, colère des opposants aux ZFE. Ici, le député RN Pierre Meurin qui se filme pour les réseaux sociaux au volant de sa voiture.
Et le gouvernement peut, par une décision technocratique, voire dictatoriale, s'asseoir sur les travaux du Parlement.
Discours relayé par son collègue à l'Assemblée, Laurent Jacobelli.
Dommage que le gouvernement refuse l'obstacle, parce que ces ZFE, c'est véritablement une forme de ségrégation sociale. On interdit à ceux qui ont des vieilles voitures d'aller dans les centres-villes.
Maintenir le vote, c'était envoyer le texte au casse-pipe, faute de majorité, justifie un ministre. Le combat n'est pas terminé pour obtenir la suppression de ces zones, prévient l'insoumis Adrien Clouet.
Nous allons nous battre. Les ZFE doivent disparaître en France. Soit le texte arrive et on l'utilise pour les supprimer, soit le texte n'arrive pas et on est majoritaire pour les virer par un autre véhicule législatif, un autre texte de loi. Il y a une majorité pour mettre fin à une pratique, les ZFE, qui n'a jamais aucunement prouvé ses résultats en matière écologique.
Soulagement en revanche des pros ZFE, ce report permettra peut-être à la raison de revenir, réagit la macroniste Agnès Pannier-Runacher. Pour l'instant, le gouvernement n'a arrêté aucune nouvelle date de vote.
Du nouveau, tiens, ce matin, dans la course à la présidentielle de l'année prochaine, François Ruffin participera bien à la primaire de la gauche qui sera organisée le 11 octobre prochain. On se demandait qui en serait à cette primaire après les refus de Jean-Luc Mélenchon et de Raphaël Glucksmann. Hier matin, il le disait sur RMC. Drôle d'ambiance, tiens aussi. On en parle ce matin au Parti Renaissance. Gabriel Attal organise une soirée aux aires de campagne ce soir à Paris. Il sera d'ailleurs l'invité d'RMC ce matin à 8h30. Outil de communication personnel, tacle Elisabeth Borne qui ne participera pas à cette soirée. Il est 8h04 sur RMC. La pluie a enfin cessé ce matin en Bretagne. Il ne pleut plus, mais l'eau, et c'est bien le souci, l'eau continue de monter. L'Ille-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan restent en vigilance orange pour les crues, avec ces cours d'eau qui débordent par endroits depuis plus d'une semaine. C'est le cas par exemple dans la ville de Malétroit. Marion Gauthier a interrogé ce matin Michel, un habitant. Écoutez-le au micro d'RMC.
Je regarde tous les jours la hauteur d'eau. Ça baisse un peu.
Ça vous rassure ?
Ça dépend combien de millimètres tombe. Dans la journée, il y a de l'eau jusqu'au 5 février. Ça va être long, hein, la décrue. Oui. Il pleut 10-20 mm, ça va aller. Mais si, admettons qu'il pleut 40 mm, ça peut être grave. Il y a quand même toujours un volume d'eau, hein. Puis c'est plein partout. Surtout qu'il y a des marées cette semaine. On peut être inquiet quand même. Hein.
Après le Mercosur, dont on a énormément parlé, c'est avec l'Inde que l'Union européenne vient de conclure, là, ce matin, un accord commercial. Il prévoit une réduction drastique des taxes indiennes sur la quasi-totalité des produits européens importés en Inde, en particulier celles qui frappaient durement, d'ailleurs, les voitures, le vin. Ça concerne donc le vin français et les pâtes aussi. La présidente de la commission Ursula von der Leyen salue ce matin l'avènement d'une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes. Les dirigeants du Danemark et du Groenland entament une tournée des capitales européennes. Ils seront reçus demain à Paris par Emmanuel Macron pour remercier en fait les dirigeants de l'UE d'avoir fait bloc face aux menaces de Donald Trump. Et alors ce matin, les regards se braquent sur le Moyen-Orient parce que ça y est, Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Ça y est, les Américains ont positionné leur bateau de guerre au large de l'Iran en pleine répression sanglante.
Oui, c'est un peu plus que des épreuves de Coupe du Monde qui se jouent à Chladming. Deux courses vont décider quel skieur va obtenir in extremis son billet pour les JO. Ce soir, le géant, deux skieurs en lice, Thibaut Favreau et Alexis Pinturault. Et demain, le slalom avec Victor...
Bien, on va retourner au Moyen-Orient avec les États-Unis qui viennent de déployer leur fameuse armada maritime dont on parle depuis plusieurs jours en pleine répression sanglante en Iran. Antoine Hollard, aux États-Unis donc pour RMC. Antoine Hollard, ça y est, Donald Trump fait pression en fait, hein.
Oui, Donald Trump montre les muscles. Il évoque une grande armada qui arrive au Moyen-Orient. Il s'agit du porte-avions Lincoln, 5000 marins à bord, 90 aéronefs. Il est accompagné par trois navires de guerre, équipés notamment de missiles Tomahawk. Le Pentagone, par ailleurs, a déployé des avions de combat supplémentaires dans la région. Alors, il y a une quinzaine de jours, on pensait que les frappes américaines étaient imminentes. Trump, finalement, n'a pas appuyé sur le bouton, notamment parce que les Américains n'avaient pas suffisamment de moyens sur place pour mener ces frappes et surtout pour défendre les bases américaines qui seront prises pour cible en représailles. Trump a désormais toutes les cartes en main et il a plusieurs choix possibles. Il peut décider de lancer une attaque. De nouveaux plans d'action lui ont d'ailleurs été présentés. Mais il peut aussi essayer de conclure un deal avec les Mollahs, un accord pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Trump assure que Téhéran veut discuter. Il se dit lui-même ouvert à ces négociations. Et dans ce cadre, eh bien, ce déploiement de force ne serait finalement qu'une façon de mettre une pression maximale sur le régime.
Bon, et puis cette question, le meilleur skieur français de l'histoire, Alexis Pinturault, va-t-il participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui commenceront dans 10 jours à Milan Cortina? C'est la question qu'agite en ce moment le monde du ski alpin. Alexis Pinturault ne faisait pas partie de la liste des 7 skieurs retenus qui a été dévoilée hier. La France a moins de places que prévu, ça fait des déçus forcément. Mais contre toute attente, une 8e place a été débloquée dans la soirée. Ça relance tout. Virginie Fulpin, vous nous dites ça depuis très tôt ce matin sur RMC. C'est donc la dernière occasion pour Alexis Pinturault de se qualifier. Ça va se jouer aujourd'hui et demain sur des courses en Autriche.
Oui, c'est un peu plus que des épreuves de Coupe du Monde qui se jouent à Chladming. Deux courses vont décider quel skieur va obtenir in extremis son billet pour les JO. Ce soir, le géant, deux skieurs en lice, Thibaut Favreau et Alexis Pinturault. Et demain, le slalom avec Victor Muffat-Jandet, l'un de ces trois skieurs, a le ticket gagnant. Ça fait 4 ans que les skieurs se préparent pour les JO et tout se joue sur une course. C'est la conséquence des quotas établis par la Fédération internationale de ski. Un nombre de places accordées à chaque nation en fonction des résultats. Pour la France, c'était 7 chez les hommes jusqu'à hier soir, puis finalement 8. Ça reste peu, mais c'est pour faire de la place à des pays émergents. Le Brésil, par exemple, on lui accorde 3 places alors qu'il n'y a qu'un seul skieur de haut niveau dans le pays. Ça explique l'agacement de Victor Mufajandet qui parle de ces quotas comme d'une injustice.
Et puis la France rejouera demain contre l'Allemagne à l'Euro de handball. Victoire obligatoire pour les Bleus après leur défaite surprise hier soir contre l'Espagne 36-32 au tour principal.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h09 et on va parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Emmanuel, les cours de l'or battent un nouveau record.
Oui, alors la première question, est-ce que c'est intéressant d'acheter toujours de l'or? Il vaut désormais plus de 5 100 $ l'once. L'once, c'est 31 grammes, je rappelle. Pour un lingot de 1 kilo, c'est 136 000 euros. Songez que les cours ont doublé en un an. Et là, en général, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bah, attendez, c'est pas possible. Il y a une folie, il y a une spéculation. C'est surtout pas le moment d'en acheter parce que les cours vont finir par s'effondrer à un moment ou à un autre. Donc, on n'investit pas. Ce serait sans doute une erreur. Ce serait sans doute une erreur parce qu'il y a des raisons structurelles à cette hausse de l'or, au-delà des tensions géopolitiques, au-delà de la baisse des taux d'intérêt américains, par exemple. Il y a la demande physique qui est là pour la bijouterie, pour la technologie, pour les banques centrales qui reconstituent des réserves de métal jaune. Ça, c'est structurel. Et puis, il y a la recherche de valeurs refuges, face à la dette colossale des grands États qui n'est pas prêt de se résorber. Tout ça fait douter de leur capacité à rembourser. Il y a l'affaiblissement structurel du dollar et les doutes croissants sur son statut de monnaie mondiale. Pour ça, l'or, c'est vraiment la protection
donc,
ultime.
Donc, on peut continuer à acheter de l'or. Et si on veut continuer à acheter de l'or, on fait comment?
C'est simple, ça n'a jamais été aussi facile d'acheter de l'or. Alors, on fait soit à l'ancienne, on achète de l'or physique, et là, on n'est pas obligé d'acheter...
Mais on l'achète tout, pardon.
Alors, on n'est pas obligé d'acheter des lingots à 1 kilo, vous pouvez acheter soit des petits lingotins, on appelle ça 10, 20, 50 grammes, ou bien un Napoléon. Un Napoléon, ça vaut 795 euros. Les bijoux, c'est plus compliqué, c'est plus risqué, faut pouvoir les planquer, etc. Alors, où est-ce qu'on achète? Oui, c'est galère. Où est-ce qu'on achète ces pièces d'or ou ces petits lingots? Jamais sur Internet, jamais de particulier à particulier, jamais dans des foires ou des salons douteux, mais dans des réseaux qui ont pignon sur rue. Alors, je vous cite quelques-uns des
magasins qui ont pignon sur rue.
Oui, voilà, quelques-uns des grands réseaux. Il y en a plusieurs. Il y a Godot, il y a CPR, il y a Au Coffre, etc. Et puis sinon, il y a la façon moderne qui est d'acheter de l'or papier avec ces fameux ETF, ces fonds qui répliquent l'évolution des cours de l'or. En un clic sur votre portable, vous mettez la somme que vous voulez, ou bien alors vous achetez aussi potentiellement plus classique.
Alors ça, c'est pour acheter, et si on veut vendre?
Si on veut vendre, alors vos placements dans leur papier, c'est facile, en 3 clics, c'est réglé. Les lingots ou les pièces, c'est facile aussi. Vous allez dans des réseaux donc qu'on a cités précédemment, vous aurez un prix qui est basé sur le cours spot, mais il y aura quand même une petite marge qui sera prise par effectivement celui qui vous rachète l'or. Vous serez payé par virement ou par chèque, jamais d'argent liquide. Et puis surtout, comparez les offres, quand même, faites le tour entre 2 ou 3 acheteurs. Attention à la fiscalité, 11,5% plus la taxation des plus-values s'il y en a. Pour les bijoux, c'est plus compliqué, c'est souvent décevant.
On a compris que les bijoux, c'était pas votre truc,
Manu. Parce que, par exemple, si vous avez des bijoux de famille, vous dites, c'est chouette, il y a de l'or. Mais par exemple, l'or 18 carats, dans l'or 18 carats, il y a que 75% déjà d'or véritable. Vérifiez le poinçon, il n'y a pas de fiscalité, c'est l'avantage. Comparez les offres. Toujours, encore une fois, et puis toujours aussi, aller dans des réseaux sérieux qui ont pignon.
Des réseaux sérieux.
Rien sur Internet, rien de particulier.
Voilà la leçon ce matin. Merci Emmanuel, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Arnaud Demanche nous rejoint. Dans un instant, il y aura aussi le face-à-face. C'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui sera mon invité à 8h30. Et puis n'oubliez pas, tous les matins, 8h50, c'est face à Canteloup. Nicolas Canteloup et ses imitations, 8h50 sur RMC tous les jours. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour, tout va bien?
Oui.
Ça va?
Enfin, le rhume, mais enfin,
oui, voilà. Non, mais ça, on partage
non, parce
le
vous
même.
Vous avez l'air de vous intéresser,
je m'intéresse à votre santé. Vous me préoccupez beaucoup. Je vous ai vu vous moucher pendant toute la pub. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle ma soirée. J'ai fait pareil. Bonjour aussi aux enfants qui nous écoutent, parce que ce matin, ça les concerne, car cette nuit, l'Assemblée a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée prochaine. Il était temps. Déjà que les Français font plus de gosses, si le peu qu'il nous reste passe ses journées sur des réseaux, comment on va payer nos retraites s'il y en a plus peu et qu'ils sont abrutis? Donc là, vos enfants, bonne nouvelle, vont enfin se remettre à lire des livres. Mathieu, il va retrouver ses gamins sur le côté du feu. Hé, les enfants, vous venez, on fait un Mario Kart?
Non, papa.
Je suis en train de finir la critique de la raison pure de Kant. Tu ne la trouves pas en totale contradiction avec la pensée de Heidegger? T'étais moins chiant quand t'avais TikTok, hein. Papa, tu n'es qu'un béotien. Vraiment, je comprends mieux pourquoi tu n'es plus sur le service public.
Hey, oh, oh.
Alors, Emmanuel Macron a déclaré dans une vidéo, le cerveau de nos adolescents n'est pas à vendre. Bon, déjà, qui voudrait acheter un cerveau d'adolescent?
C'est vrai.
Pas ceux qui marchent le mieux. Puis les ados, en général, ne sont pas à vendre. On est en France, on n'est pas sur l'île de Jeffrey Epstein, voilà. Non. Emmanuel Macron va donc devoir aller s'expliquer, j'imagine, dans plein d'émissions regardées par les jeunes. Par exemple, l'émission de Jordan Deluxe, pour expliquer sa décision. Salut Emmanuel, merci d'être venu dans mon émission. Alors, Emmanuel, tu touches combien comme retraite? Mais alors, non, je suis président en exercice, moi. Ah, pardon. Je suis trop bêta sous. J'ai tellement l'habitude de recevoir des retraités. Par exemple, hier, j'avais Daniel Gilbert. Oh, Daniel Gilbert. Oh, sexy girl.
Oh,
tu sais si elle est célibataire ou veuve? Je sais pas. Alors, les réseaux sociaux. Oui, oui. Pardon, les ados passent trop de temps sur Facebook, MySpace, copains d'avant et caramel. Tout ça, c'est pas avant 15 ans. Et tant qu'on y est, moi j'ai une autre proposition, interdisons les réseaux sociaux aux plus de 65 ans. Non, parce que les boomers de Facebook, on est d'accord, c'est un dossier en soi. C'est fou, ils croient tout. Ils croient des photos en intelligence artificielle où t'as un enfant qui pleure à côté d'une statue de Jésus faite en haricots verts et il y a marqué « Personne ne m'a félicité pour ma statue ». Et t'as 60 Jocelyne et 60 Bernard qui commentent « Vous êtes très talentueux, croyez en vous, moi je vous félicite, Jocelyne du 62 ». Tous ceux qui parlent à Brad Pitt, t'as aussi ceux qui font des commentaires sous les pubs Obad en croyant qu'ils parlent à la mannequin de la pub. Jolie courbe, mademoiselle. Si jamais vous passez par Pithiviers, gros bisous, Michel. En croyant, voilà. Tous ceux qui commentent, alors, t'as ceux qui commentent toutes les vidéos qu'ils voient, ils mettent toujours le même commentaire qui est Frexit, vite!
Oui!
Quel rapport? C'est une vidéo de chat. T'as tous ceux qui mettent des citations de Michel Audiard sur une photo de Coluche dans des groupes Facebook intitulés Ma belle France d'avant. Mais coupons leur Facebook à ces gens-là.
Arnaud, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé qu'il se rendrait au Groenland pour ouvrir un consulat français.
Ben voilà, on doit faire des économies. Il annonce l'ouverture d'un consulat au Groenland. Il y a 25 Français là-bas. Un groupe WhatsApp aurait suffi quand même. Elles vont être cool, hein, les soirées de l'ambassadeur. Les soirées de l'ambassadeur ne sont jamais un succès. Elles sont même très chiantes parce que personne vient. Et pourtant, l'ambassadeur, il est sorti sous la neige pour acheter des putains de Ferrero Rocher en importation au seul supermarché du pays pour 50 balles les 5. L'ambassadeur, il rêvait de Monaco ou de Bangkok. Il se retrouve à Nuuk, comme un con. En plus, elle dure longtemps, la soirée de l'ambassadeur, parce que la nuit tombe le 21 octobre à 14h30 et le soleil se lève le 22 avril à 8h. L'ambassadeur, ça va, quoi. Il va pas bien, l'ambassadeur. Et alors, dans la Creuse aussi, ils font la gueule. Hein? Ils ont un fonctionnaire pour 25 habitants. Nous, on a juste un pauvre sous-pressé. Alors, on est 60 habitants dans tout le département. C'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste.
C'est vrai, c'est pas juste. Juste. Notre-Dame de Bétarame devrait fermer prochainement.
Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les locaux à la place? Ils vont pas la détruire. Il faut quelque chose qui soit à la hauteur.
Très riant.
Ouais. Il faut un truc à la hauteur, un club SM ou pire, les locaux de l'URSSAF des Midi-Pyrénées.
Ah ouais.
Et les profs, faut leur trouver un métier en relation avec leur savoir-faire. Vous savez qu'ils se pointent à France Travail. Alors, vous aimez maltraiter les enfants, les angoisser, les dominer? Bah écoutez, bienvenue chez TikTok, on est content de vous accueillir. Il faut que Jean-Marc Morandini délocalise son émission sur CNews à Bétarame.
Et je suis en direct de Bétarame avec l'aumônier de l'école. Alors, mon père, où sommes-nous?
Eh ben, nous sommes dans la chapelle, une très belle chapelle du XVIIe siècle. Regardez ces vitres.
Ouais. Et sinon, les douches, elles sont où?
Au deuxième étage. Qu'est-ce que j'ai comme souvenir là-haut? Oh là là. Le petit Bastien.
Non! Vous aussi! Vous savez qu'on a été ensemble avec Bastien.
Oh là là, ils grandissent trop vite.
En tout cas, votre chapelle est magnifique.
Ouais, ça nous coûte cher, mais vous savez, Vincent Bolloré nous a toujours soutenus.
Non! Vous aussi!
dit. On a tellement de points communs, c'est incroyable. Ça va faire une super émission. Allez, à demain.
Ah mon Dieu, Arnaud Demain, je suis en direct tous les jours à 7h20 et 8h20 et à tout moment en podcast. Il est 8h21. Dans un instant, on se retrouve pour le face-à-face. Mon invité, c'est Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Alors, il se réjouit, il se félicite d'avoir obtenu hier la première étape de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Le président aussi s'en réjouit d'ailleurs. Finalement, on n'arrive plus trop à savoir qui a fait quoi dans cette histoire et si le fils veut tuer le père. Bref, Gabriel Attal, mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV, l'ancien Premier ministre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien Premier ministre, bien sûr, aujourd'hui député des Hauts-de-Seine et vous êtes président du groupe des macronistes, mais aussi secrétaire général du parti Renaissance, enfin, qui s'appelle encore Renaissance, on va y revenir. Ça devrait changer de nom. Pourquoi vous n'avez pas tout fait péter quand vous étiez Premier ministre ?
J'ai fait ce que j'ai pu tout au long de la fonction qui m'a été confiée, le temps que j'ai eu pour le faire. Ça a été malheureusement interrompu par la dissolution.
Ça vous choque pas le mot que j'utilise parce que vous savez évidemment à quoi je fais référence. Mais ceux qui nous écoutent, peut-être pas, vous organisez ce soir une grande soirée de réflexion, de table ronde. Et le premier thème de la table ronde, c'est « Faut-il faire tout péter pour refonder la France ?» Mais au fond, je me dis, vous avez quand même été longtemps au pouvoir. Si vous estimez qu'il faut tout faire péter, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
D'abord, moi, j'ai été dans différentes responsabilités. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai été à Bercy. Je pense que quand on regarde ce que j'ai porté, ce que j'ai défendu, des décisions que j'ai prises dans ces fonctions, il y a eu des mesures assez radicales. Et d'ailleurs, à l'époque, on me l'a parfois reproché. On pourra citer à l'Éducation nationale le choc des savoirs avec le retour du redoublement, les groupes de niveau. On pourra citer l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Quand j'étais à Matignon, les mesures que j'ai préparées sur l'assurance chômage, sur la délinquance des mineurs, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Surtout, Apolline de Malherbe, je crois qu'aujourd'hui, et les Français, je crois, le perçoivent, on arrive au bout d'un modèle. Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour réformer ce modèle, pour essayer de le faire évoluer. Moi, je crois qu'il est aujourd'hui totalement décalé de la réalité du pays aujourd'hui. C'est vrai pour notre modèle social. C'est vrai pour notre modèle institutionnel, c'est vrai pour les questions de sécurité, de justice, d'immigration. Tout ça, ça a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une France qui était totalement différente, et aujourd'hui, tout a changé.
Mais c'est vrai que c'est étrange d'entendre ça. C'est-à-dire, je comprends parfaitement ce que vous dites, et je vais même vous aller plus loin. Tous les politiques que j'ai devant ce micro disent tous qu'il faut tout changer. Alors, aucun désormais ne dit qu'il faut absolument préserver tout ce qu'on a aujourd'hui.
Vous avez quand même beaucoup de politiques, Apolline de Malherbe, qui donnent le sentiment qu'on est encore dans des débats de paramètres. Est-ce que sur la retraite, il faut passer de 64 à 65 ans, ou 65 ans et demi ? Est-ce que sur la fiscalité des entreprises...
Vous n'avez plus d'âge.
Ah, moi, je propose avec le Parti Renaissance un nouveau mode système de retraite. Il faut en changer parce que toutes ces réformes qui ont été faites ces dernières années pour décaler un peu l'âge légal de retraite, on voit que ça n'a pas réglé le problème. Et donc, il faut assumer de changer le système. Je veux un système universel, les mêmes règles pour tout le monde, un système libre. Effectivement, je suis pour la suppression de l'âge légal. On ne garde que la durée de cotisation avec des décotes, des surcotes. Vous voulez partir tôt, vous avez peu. Vous voulez partir tard, vous avez beaucoup plus. Et je veux qu'on assume la capitalisation dans notre système de retraite qui permettra aux Français d'avoir une meilleure retraite et par ailleurs qui permettra de financer notre économie.
Je vais lire un autre thème de votre table ronde ce soir. Faut-il tout péter pour refonder la France ? Donc, il y a écologie, économie, autorité. Est-ce que tout est foutu ? Et enfin, faire de la politique en 2026, comment y croire encore ? J'avoue que c'est très encourageant parce que si vous vous demandez si on peut encore y croire, c'est que vous le demandez, c'est que effectivement les gens n'y croient plus.
Et je pense que tous les Français, en tout cas beaucoup de Français, se posent exactement les questions que vous venez d'évoquer. Et on pourra en rajouter d'autres. Il y en a une sur les chefs d'entreprise. Parce que moi, je veux qu'on se pose les bonnes questions. Je suis à la tête d'un parti politique dans un moment qui est extraordinairement difficile pour notre pays, par ailleurs qui est difficile dans le monde. Si on n'est pas capable d'assumer de se poser les bonnes questions, même si nous, ça nous conduit à faire une autocritique, même si ça nous conduit à avoir un regard sur ce qui a pu être fait ces dernières années, qui a pu être mal fait ces dernières années sur certaines choses, on n'arrivera pas à s'en sortir. La France s'en sortira pas. Donc moi, je suis pas là. Mon objectif, c'est pas de réunir des gens pour dire tout va bien dans le meilleur des mondes, les Français sont heureux, il y a pas de problème. Au contraire, faut parler des problèmes.
Vous posez la question de savoir si tout est pas foutu.
Et surtout, ce qui est intéressant dans ces sujets-là que vous venez d'évoquer, c'est que seront réunis ce soir des personnalités qui sont pour beaucoup pas des politiques, qui sont des personnalités de la société civile. Il y aura des syndicalistes, il y aura des partenaires sociaux, des gens du patronat, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des associatifs, il y aura des intellectuels qui pensent pas forcément la même chose entre eux, qui sont loin d'être tous d'accord avec moi et avec ce que je propose, mais qui vont finalement confronter leurs idées, leurs points de vue, pour participer peut-être à refonder la France.
En revanche, un certain nombre de poids lourds de votre parti ne seront pas là. Elisabeth Borne, qui était invitée de BFM TV hier soir, a dit qu'elle avait absolument pas prévu de venir. Elle dit même, je crois même pas que Gabriel Attal soit mon patron. Vous n'êtes pas le boss du parti.
Moi, vous savez, je suis secrétaire général de ce parti. Les militants m'ont élu pour ça. Et mon objectif, c'est d'en faire un véritable parti. C'est de tout refonder et d'assumer, de dire que notre pays a changé, qu'il y a beaucoup de problèmes à régler en France et que pour ça, on peut pas faire comme avant. Voilà, c'est ça la ligne qui est la mienne. Après, pour le reste, vous savez, il y a toujours des commentaires.
Ça vous a quand même surpris ?
Il y a toujours des commentaires. Et honnêtement, voilà, chacun est libre de sa parole. Moi, l'important.
Oui, vous l'avez invité ou pas ?
Ah bah bien sûr, tout le monde est invité à ce moment ce soir. Tous nos adhérents ont été invités. Il y aura beaucoup de monde, il y a beaucoup d'inscrits. Mais encore une fois, l'important, c'est pas de parler de nous. L'important, c'est de parler du pays et de laisser parler des Françaises et des Français qui sont pas en politique, mais qui ont des choses à nous dire.
Alors, puisqu'on est sur le parti, j'aimerais bien quand même y voir plus clair sur votre histoire de nom. Ça s'est appelé En Marche. Ça s'est appelé La République En Marche, LREM. Ça s'est appelé Ensemble pour la République. Ensuite, ça s'est appelé Ensemble tout court. Ensuite, ça s'est appelé Renaissance. Et maintenant, ça va s'appeler Nouvelle République. Alors, je vous avoue qu'en regardant tous ces noms en si peu de temps, je me suis quand même dit qu'il y avait un côté, vous cherchez, quoi.
Vous savez, moi, quand j'ai pris les rênes de ce parti il y a un an, les adhérents eux-mêmes m'ont dit qu'il fallait changer de nom. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu plein de changements de nom avant,
quand j'étais parce que vous savez pas très bien où vous habitez,
quand j'étais pas aux responsabilités. Ben, je pense parce que les noms qui ont été choisis reflétaient pas forcément un projet politique. Or, je pense que le nom d'un parti, ça doit permettre d'identifier le projet politique de ce parti. Ce que j'ai répondu aux adhérents il y a un an, c'est que je souhaitais d'abord qu'on travaille sur le fond et sur le projet.
D'ailleurs, vous dites, une fois qu'on a fait ce travail de réflexion sur le fond, le nom peut changer pour refléter une idéologie.
Exactement.
C'est quoi votre idéologie ?
Moi, je le dis souvent, et je pense que ça rassemble les femmes et les hommes qui sont chez Renaissance. Moi, je suis libéral en matière économique. C'est-à-dire que je crois que si on veut avoir un financement de nos services publics, notre modèle social, il faut de l'emploi, il faut de la croissance. Pour ça, il faut des entreprises. Et donc, il faut permettre à nos entreprises d'être compétitives. Je suis très ferme sur les questions régaliennes. La sécurité, la justice, l'immigration, la laïcité, l'autorité. C'est peut-être un angle mort de ces dernières années, il faut assumer de le dire, dans la politique qui a été conduite par les gouvernements
successifs. Le régalien, c'est-à-dire toutes ces questions d'autorité, de laïcité, oui. Vous estimez que vous vous êtes pas suffisamment attaqué, vous les macronistes, je veux dire.
J'estime que collectivement, effectivement, il y a une forme de constat d'échec sur un certain nombre de sujets. C'est une réalité, et encore une fois, c'est pas un gros mot de le dire. En tout cas, moi, à chaque fonction qui a été la mienne, j'ai tout fait pour agir sur ces sujets-là, on pourra y revenir. Je suis progressiste sur les questions sociétales et sur les questions climatiques. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Des droits supplémentaires pour les Français, que ce soit en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de fin de vie. Vous savez que je défends un texte pour des personnes qui sont dans une situation incurable, qui souffrent, qui n'ont pas d'autre solution, il puisse y avoir une aide active à mourir. Et enfin, je suis profondément pro-européen. Voilà, si je devais résumer ce en quoi je crois, je pense que ça permet de répondre à un certain nombre de problèmes que se posent les Français et par ailleurs que ça permet de rassembler assez largement.
Le journal la République, la Nouvelle République, initialement la Nouvelle République du Centre, vous l'avez vu, a réagi à votre nouveau nom. Donc,
Encore, Apolline de Malherbe.
Ah bon, ce ne sera pas la Nouvelle République ?
J'ai annoncé que le nouveau nom, ça serait après les municipales. Il y a plusieurs noms qui sont possibles.
Dont la Nouvelle République.
Parce que la Nouvelle République, c'est une dynamique qu'on a lancée au mois de septembre dernier à Arras, précisément pour assumer qu'il faut refonder les institutions en France, qu'il faut refonder notre modèle si on veut qu'il survive.
Vous dites pas que c'est complètement acté, mais enfin c'est quand même Nouvelle République.
Je dis rendez-vous après les municipales. C'est vrai que sur Nouvelle République, ça incarne ce projet qu'on veut porter pour le pays. Maintenant, on verra.
Comme les filles avec la 6ème République.
On verra à ce moment-là. Non, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas la même.
Parce que derrière Nouvelle République, on parle pas que des institutions comme le fait LFI avec la 6ème République. On parle de notre modèle social qui ne peut plus tourner dans la démographie actuelle. On parle de notre modèle régalien. Comment est-ce que on juge les mineurs? Comment est-ce qu'on garantit la sécurité? Comment on gère les flux d'immigration en France? On parle de notre modèle démocratique, c'est vrai, nos institutions, et on parle de notre modèle économique.
Je le disais, le journal Nouvelle République, en tout cas, pense effectivement que tout converge à changer votre nom vers Nouvelle République. Ils disent le président du parti de la République changera bientôt de nom. Problème, il opterait pour celui d'un groupe de presse historique, le nôtre. Gabriel Attal ambitionne de changer le nom de son parti après En Marche, La République En Marche. Ce serait donc la Nouvelle République, peut-être parce que Jean-Luc Mélenchon, disent-ils, a politiquement préempté l'appellation 6e République. Et ils ajoutent, l'hommage est embarrassant, même si la timidité de Gabriel Attal est émouvante, on y perçoit une certaine ironie. Le leader politique n'a en effet pas osé informer la Nouvelle République de son idée. Timide mais prudent, il a tout de même interrogé des juristes. Et puis surtout cette fin assez grinçante. La Nouvelle République en a vu d'autres, dit l'édito ce matin donc de la Nouvelle République. Elle attend déjà que la Macronie passe à autre chose. Si Gabriel Attal manque d'inspiration, qu'il s'intéresse au municipal. Ce rendez-vous électoral dans lequel son parti peine à peser, mais que la Nouvelle République chronique sans parti pris. Qu'est-ce que vous répondez ?
Bon, d'abord, heureusement, la Nouvelle République, ou la République tout court, elle appartient à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a déjà un parti qui s'est appelé comme ça, ou quasiment,
tout à fait.
Le parti du général de Gaulle, en 1958, qu'il a créé l'Union pour la Nouvelle République. Voilà, après, moi, j'ai beaucoup de respect pour la PQR, y compris les éditos grinçants, comme vous dites. Je suis très engagé aussi. Je suis très engagé aussi sur la question des municipales, évidemment, qui est un scrutin majeur pour les Français. On a des candidats Renaissance.
Ils disent effectivement que votre parti peine à peser, c'est juste. Il peine à peser, quand même.
D'abord, faut voir les élections, le résultat des élections. Ensuite, vous savez.
Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas de candidat.
Mais vous savez, d'abord, la plupart des candidats aujourd'hui en France, quel que soit leur parti d'origine, en général, ils se présentent avec leur étiquette propre locale. C'est vrai pour les gens qui viennent de gauche, de droite, du centre, etc. Parce que c'est des élections locales. Et ensuite, on a des candidats un peu partout en France, je peux vous dire. Il y a plein de villes, on a des candidats, je pourrais en parler ici. Et il y a d'ailleurs plein de villes qu'on va gagner avec nos candidats à l'occasion de ces municipales.
Donc pour vous, il n'y a pas de problème sur les municipales, vous?
Ah non, vous savez, ça fait un an qu'on travaille sur les municipales. Et on a assumé de dire qu'il y a certaines villes où on considère qu'il faut se présenter sous nos propres couleurs, parce que c'est nous qui avons les meilleures idées pour cette ville, parce qu'on a travaillé, etc. Il y a des villes, on a assumé de dire, on va soutenir un maire sortant, ou une autre équipe qui se présente, parce qu'ils sont mieux préparés que nous, parce qu'ils ont des valeurs, des idées qui correspondent aux nôtres. J'ai envie de vous dire, c'est très bien. Moi, je pense que les gens, ils en ont marre aussi de voir ces partis qui, en permanence, disent, quoi qu'il arrive, je suis pas d'accord avec les autres, je vais me présenter sous ma bannière, avec mon drapeau, et je me fiche de savoir s'il y a d'autres candidats qui sont en accord avec mes idées.
Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Première étape franchie hier. Est-ce que vous vous dites que ça va effectivement pouvoir entrer en application, comme vous l'espérez, au 1er septembre ? Certains disent que si l'Union européenne ne vous suit pas, ça restera lettre morte.
L'Union européenne, elle nous donne la possibilité de l'interdire. Et ça, c'est très important. Vous savez, moi, c'est un combat que je mène depuis longtemps. Septembre 2023, je m'exprime pour la première fois en tant que ministre de l'Éducation nationale pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y a eu beaucoup de travail depuis, notamment avec une députée de mon groupe, Laure Miller, avec des membres du gouvernement, je pense à Clara Chapaz, qui était membre du gouvernement précédent sur le numérique. Et il y a eu aussi un travail au niveau européen, grâce à deux eurodéputés de notre groupe, Valérie Ayé et Stéphanie Yoncourtin. La Commission européenne nous a donné, il y a quelques mois, le droit de pouvoir interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. On vient de le voter à l'Assemblée nationale. C'est une étape décisive. Donc pour vous répondre, oui, cette mesure pourra entrer en vigueur au 1er septembre 2026, à condition que le texte soit définitivement adopté. Ça va passer au Sénat, je pense, à peu près dans un mois. Mais on sera le premier pays de l'Union européenne à mettre en œuvre cette
mesure
qui est essentielle.
Mais précisément, selon une source à la Commission européenne qui s'est confiée à notre journaliste sur les questions notamment d'Internet, Raphaël Grabli, la France ne pourra pas obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge des internautes à partir du 1er septembre 2026 parce qu'il s'agit d'une compétence européenne.
Mais justement, la compétence européenne, c'est le Digital Services Act. Désolé de rentrer dans les détails.
Non, non, au contraire, allons-y. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'on rentre dans les détails pour savoir si au-delà des mots, ça va vraiment marcher.
Et dans son article 23, ce texte européen donne la possibilité désormais aux États membres de pouvoir l'interdire dans leur pays. Pourquoi c'est important, juste très rapidement, parce qu'il y a probablement beaucoup de parents qui nous écoutent et que ça intéresse. C'est important parce que, vous savez, je suis très engagé dans la lutte contre le harcèlement à l'école. J'ai beaucoup œuvré en la matière. Le harcèlement, il passe aujourd'hui beaucoup, malheureusement, par les réseaux sociaux. C'est important parce qu'on voit que l'usage des réseaux sociaux très jeunes et de manière très prolongée, ça a un impact sur les capacités de réflexion de nos enfants. Il y a une étude américaine qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que pour un adolescent qui passe 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, en 2 ans, c'est un retard par rapport aux autres adolescents de l'ordre de 6 mois. En termes de développement, en termes d'apprentissage, etc. C'est important parce que ça agit sur la santé mentale de nos enfants. Et c'est important, enfin, parce que derrière ces plateformes de réseaux sociaux, il y a des puissances, il y a des pays, la Chine, les États-Unis, qui parfois, tenez-vous bien, n'autorisent même pas ces réseaux sociaux pour leurs propres enfants dans leur pays. Et donc moi, je veux qu'on puisse être indépendant en la matière, qu'on puisse protéger nos enfants.
Et est-ce qu'il ne faut pas carrément interdire TikTok ? Certains estiment qu'il faut interdire TikTok. C'était le cas de Raphaël Glucksmann à ce même micro hier. D'autres s'interrogent même sur la vente de smartphones au moins de 15 ans.
Non, moi, d'abord, je ne suis pas contre les réseaux sociaux par principe. Les réseaux sociaux, ça peut aussi être quelque chose de bien. Ça permet de découvrir des choses, ça permet d'apprendre, ça permet de rencontrer des gens. Je suis pas pour l'interdiction des réseaux sociaux. D'ailleurs, je les utilise moi-même pour communiquer. En revanche, je pense que comme pour tout, il faut un cadre, il faut une régulation. Et oui, il faut assumer de dire qu'en dessous de 15 ans, les réseaux sociaux, ça apporte plus de mal que de bien. Et donc, j'assume de défendre cette mesure depuis 3 ans. Désormais, l'Assemblée l'a votée. C'est une étape décisive. On va pouvoir poursuivre. La question qui est posée derrière tout ça, c'est dans quel modèle de société on veut vivre, Apolline de Malherbe. Est-ce qu'on veut vivre dans une société de l'incivisme, une société de la brutalité, du harcèlement, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société humaniste? On accepte de prendre soin les uns des autres. On refuse la violence, notamment dès le plus jeune âge. Moi, c'est dans cette deuxième vision que je m'inscris. Et donc, oui, on va pouvoir interdire les réseaux.
Vous savez que du côté de l'Élysée, ils estiment quand même que vous êtes assez mesquin sur cette histoire. Ils trouvent que finalement, c'est quand même un des combats d'Emmanuel Macron et que vous êtes en train de tenter d'en faire votre combat à vous.
C'est un combat collectif. Vous savez, vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Septembre 2023, je crois que j'étais un des premiers à dire qu'il fallait interdire les réseaux au moins de 15 ans. Il y a un an, j'ai signé une tribune avec Marcel Ruffo, le grand pédopsychiatre.
Non, mais est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que ça a même du sens de vous poser cette question-là? Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que maintenant, c'est à celui qui va montrer qu'il s'émancipe le plus du président de la République.
Bah, là, en l'occurrence, je défends une idée, une proposition qui est aussi défendue par le président de la République.
Donc, pour le coup,
il y a de nombreux Français, de nombreux responsables politiques qui défendent ce combat. D'ailleurs, regardez hier à l'Assemblée nationale. Je crois que quasiment tout le monde a voté ce texte, à l'exception évidemment des insoumis qui votent contre tout. Mais donc on voit bien que c'est un combat qui est collectif.
Donc aujourd'hui, ceux qui sont vraiment hors, j'allais dire, d'une sorte de consensus, c'est LFI.
Bah, on a encore vu sur ce sujet-là hier. Je veux dire, là, on parle de protéger nos enfants. Et en plus, on a entendu des choses assez lunaires parce que dans les discours qui avaient été faits par les insoumis à la tribune, ils expliquent effectivement qu'il y a un problème de santé mentale chez nos plus jeunes, qu'il y a un problème de harcèlement, qu'il y a probablement un problème d'enfermement dans des algorithmes. Mais quand il s'agit de dire, on prend une mesure pour régler ce problème-là, il n'y avait plus personne. Je dis un mot pour les parents qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent. Ils posent beaucoup de questions. Je reçois un nombre de messages, comme j'ai jamais reçu, de parents, de jeunes qui me posent des questions, comment ça va se mettre en œuvre, etc. On a lancé un site internet, Stop Réseau au pluriel, donc x.fr. Vous vous rendez sur ce site, on a mis toutes les informations. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour être mis à jour et recevoir régulièrement les informations dans les mois qui viennent, parce que beaucoup de gens se posent des questions. stopreseau.fr.
C'est clair. Gérald Darmanin dit « J'y pense et je m'en sens capable ». Édouard Philippe est officiellement, clairement, en campagne. Est-ce qu'il y aura une primaire pour vous départager? Vous allez faire comment?
Moi d'abord, il y a beaucoup de candidats sans projet. Moi, je veux que notre projet ait un candidat. Donc, je prends les choses dans l'autre sens. Et c'est le droit de plein de personnalités de dire.
Mais
moi,
vous
je suis...
aussi. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même lire les choses. Gérald Darmanin,
je n'ai pas déclaré de candidature.
Non, mais vous ne pouvez pas dire que vous y pensez pas.
Mais, moi, ce que je dis d'abord, c'est que pour se présenter devant les Français, ce qui est quand même pas une petite chose, président de la République. D'abord, il faut avoir beaucoup réfléchi soi-même. Ça nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination. Ensuite, il faut se présenter avec un projet. Donc, qu'il y ait des candidats sans projet, c'est leur droit. Moi, ce que je veux, c'est d'abord qu'on finalise notre projet avec Renaissance. Ça fait un an qu'on est dessus. On a présenté nos mesures en matière de sécurité, de justice, d'immigration, de laïcité, nos mesures en matière d'économie et de climat, nos mesures en matière de retraite. On va continuer dans les semaines qui viennent sur
mais
la santé,
que ce sera un projet
sur
commun
l'éducation.
Est-ce que ce sera un projet commun? Est-ce que vous allez proposer ce projet que vous êtes en train d'écrire? Vous dites c'est notre projet. Pour paraphraser, évidemment, Emmanuel Macron. Ok, c'est votre projet, mais est-ce que ça veut dire que vous allez voir Gérald Darmanin, vous allez voir Édouard Philippe, vous allez leur dire, voilà, on s'est mis d'accord sur un projet, maintenant, est-ce que tu veux l'incarner? Est-ce que toi, tu préfères l'incarner? Est-ce que je l'incarne? Comment vous allez faire?
Alors d'abord, ça c'est un projet qui incarne Renaissance. C'est un projet sur lequel ont travaillé les adhérents, les élus, des experts qui sont venus nous
mais
aider
vous engage,
aussi
ce projet,
avec
vous.
Renaissance. Les personnalités que vous citez, que ce soit Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, sont pas membres de Renaissance. Donc ça, c'est notre projet. Et puis ensuite, on va le défendre. Ensuite, je vais vous dire, il y aura une campagne. Et dans cette campagne, j'espère que ceux qui défendent les mêmes idées, les mêmes mesures...
En tout cas, vous ne souhaitez pas de
primaire
de manière... Quand vous voyez que la gauche est en train de mettre en place cette primaire, vous vous dites, c'est pas notre...
Ça fait j'ai jamais exclu cette possibilité-là. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux qu'on présente comme des candidats principaux sont contre l'idée de la primaire, qu'il y a beaucoup de débats sur le périmètre de cette primaire, etc.
Mais vous
moi, je vais vous dire, ce qui m'importe, c'est un, qu'on puisse défendre un projet pour le pays.
Oui, j'ai compris.
Et deux, Apolline de Malherbe. Non, mais et deux, qu'on ne se retrouve pas avec un second tour entre la France insoumise et le Rassemblement national qui serait terrible pour le pays. Et donc, que des personnalités qui défendent, grosso modo, un projet proche, bah, évidemment, ne soient pas toutes candidates à l'élection présidentielle. C'est dans 16 mois. Je pense qu'il y a du chemin d'ici là.
Et d'ici là, vous allez
du rassemblement, j'espère.
Tout faire péter ce soir, donc, au Palais Brongniart. Merci, Gabriel Attal.
Merci à vous.
D'avoir été mon invité ce matin, ancien Premier ministre et évidemment à la tête du parti Renaissance. 8h48. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, est resté pour vous écouter, Nicolas Canteloup. Rebonjour, Gabriel Attal.
Bonjour, et je suis ravi d'assister à ce moment.
Et Jean Castex souhaitait justement vous dire un mot.
Mets-moi donc, Madame Malherbe. Je le connais bien, Gabriel. Il a été, précisons-le, mon porte-parole, mais plus que ça, mon représentant, mon ambassadeur, mon porte-voix, mon mégaphone. Et croyez-moi, c'est là où j'ai vu le garçon briller. Qu'il était motivé, parce que pendant la Covid, Mme Malherbe, il fallait s'accrocher pour expliquer les mesures aux Français. Hein. Moi, je l'écoutais attentivement, parce que moi-même, mes propres mesures, j'avais du mal à les comprendre. Hein. Il a passé 2 ans à annoncer les confinements en heure creuse, en heure pleine, en heure quasi creuse, en heure semi-pleine, les jauges debout pour les salles de plus de 1000 personnes, mais assises dans les jauges de moins de 500. Hein. Avec les tables de la Noël à limiter à 6 personnes sans papier mamie, sauf s'ils avaient bien sûr rempli une auto-attestation pour pouvoir circuler dans les départements, se terminant par 4, 6 ou 9. Non, c'était, il faut le reconnaître, ardu.
Oh oui, on s'en souvient. Hein.
Alors, je n'oublierai jamais que pendant 2 ans, il m'a régulièrement aidé trouver mes lunettes. Oui. En tout cas, Gabriel, si tu souhaites bifurquer, on ne sait jamais, que préserve la vie, sache que Jean-Claude Farigoul, le porte-parole de SNCF, va bientôt partir.
Ah, ben ça pourrait être vraiment intéressant, je pense.
Oui, parce qu'il est en âge de prendre sa retraite, puisqu'il a bientôt 47 ans passés.
Ah, Donc,
si tu souhaites postuler, envoie-moi un SMS, je mettrai ton dossier en haut de la pile.
Merci beaucoup, monsieur Castex. Et justement, on en parlait ensemble, Gabriel Attal est toujours avec nous. Monsieur Attal, avant la SNCF, votre préoccupation, c'était surtout de changer le nom du parti Renaissance pour Nouvelle République.
Apolline Malherbe. Le plus important, ce n'est pas le nom, c'est le projet.
Oui.
C'est le projet. Mmh. C'est pas le candidat. Le candidat, on s'en fout, c'est le projet. Le projet. C'est le projet. Il faut qu'il témoigne d'un nouveau souffle. Alors, c'est vrai, ça peut être Nouvelle République, mais c'est vrai que ça sonne un peu presse quotidienne régionale, je vous l'accorde. Et mes ambitions, vous l'avez compris, sont plutôt nationales.
Oui.
Donc, le nom n'est pas totalement arrêté. Ça peut être Nouvelle Renaissance.
Oui.
Ou je ne sais pas, moi, Renaissance d'une Nouvelle République naissante.
Ah oui, c'est bien ça.
Ça peut être même Naissance d'une République nouvelle naissante vers le renouveau d'une naissance.
Ah oui.
En tout cas, l'idée, Apolline de Malherbe, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fasse surtout qu'on oublie ce qu'il y avait avant.
Ah oui, c'est quand même ça l'idée. Alors rapidement, un mot quand même sur l'international, monsieur Attal. Vous prenez un changement de doctrine avec plus de fermeté, notamment vis-à-vis de Donald Trump.
Apolline Malherbe, le monde change. Il faut toujours être vigilant. C'est pour ça que j'ai toujours les yeux écarquillés. Parce que croyez-moi, il faut garder les yeux ouverts. Vous voyez, la dissolution, je n'ai pas vu venir. Pour en venir à Donald Trump, pour moi, c'est un ado turbulent. S'il était en face de moi, je lui dirais « Donald, tu casses le nu, tu casses le temps, tu répares. Tu salis la mémoire de l'Amérique, tu nettoies. Tu veux avoir bonne mine, tu mets de l'autobronzant.
Voilà.
Tu veux le Groenland, tu mets des glaçons dans ton coca.
Voilà.
Tu regrettes le temps des soirées Epstein, tu achètes une poupée chine.
Non.
Tu te moques du président Macron, Ben là, tu peux y aller, fais-toi plaisir.
Oh. Oh, merci, monsieur Attal. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres.
Bonjour, très heureux d'être avec vous, chère Apolline, mais un peu moins d'être en face de Gabriel Attal, macroniste de la première heure. Du coup, j'ai pris mes précautions. J'ai mon crucifix avec moi, mes gousses d'ail et mon eau bénite pour me protéger. C'est parti pour les titres. Avec ce rappel de boîte de lait infantile contaminée après Nestlé Lactalis, pardon, c'est autour de Danone. Comme quoi, en France, il n'y a pas que la DZ Mafia qui vend des saloperies. pris en poudre.
Et puis, Groenland, la Maison Blanche a publié, vous l'avez vu peut-être, une photomontage où l'on voit Donald Trump en train de tenir la main d'un manchot. Oui, d'un manchot, bien sûr, je précise, l'animal.
Sinon,
ça n'aurait aucun sens. Mais les wokistes et autres bobos gauchistes ont cru bon polémiquer sur ce sujet en disant que les manchots vivaient dans l'hémisphère sud et que le Groenland, c'était les pingouins. Mais franchement, mais ça intéresse qui? On s'en fout. C'est manchots, pingouins, tout ça, c'est pareil. C'est comme les Chinois, les Vietnamiens. Excusez-moi, c'est pareil. Thibaut Texer, Alain Marchal, vous sauriez faire la différence entre un pingouin et un Chinois? Non, mais voilà. Polémique toujours. La SNCF a lancé une nouvelle classe avec des wagons sans enfants. Mais écoutez, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est news, ça fait longtemps qu'on a tout un étage réservé aux adultes et interdit aux enfants. C'est l'étage où se prépare l'émission Morandini Live.
Oui, c'est ça. Merci Pascal. Le sénateur Joël Guerriot est poursuivi en justice pour avoir tenté de droguer sa collègue Sandrine Josseau. Gérard Larcher, vous vouliez réagir.
Oui, bonjour madame Malherbe. Avant toute chose, j'aimerais saluer Gabriel Attal.
Oui,
j'aime beaucoup Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel, surtout son nom. Dès que j'entends Attal, l'estomac qui gargouille. Oui, alors, cette affaire, Joël Guerriot, m'attriste pour la réputation du Sénat. Qu'est-ce qu'il avait besoin de mettre des drogues dans le verre de cette pauvre dame pour l'endormir, alors qu'il suffisait de lui faire assister à une séance de débat sur la péréquation financière des collectivités territoriales et de leur influence sur le chiffre d'affaires des PME dans les zones franches, sur les zones littorales. J'ai juste derrière un repas à la cantine du Palais Luxembourg, je vous assure que la pauvre dame partait pour 4 heures de sieste.
Merci beaucoup, monsieur Larcher, pour vos réflexions. Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain?
Bonjour, Apolline. Aujourd'hui, dans les Grandes Gueules, nous parlerons d'Alex Pretty, cet homme abattu dans le Minnesota par la police américaine, avec Willy, qui vient justement de passer son permis de chasse et qui, en plus, connaît très bien l'Amérique, puisqu'il est lui-même passionné de musique country.
Ah bah oui,
et puis, nous reviendrons également sur les wagons sans enfants avec Jean Jérôme, qui est bien placé pour en parler, puisqu'il est passionné de trains électriques. Et il adore y jouer tout seul dans le calme pendant que justement ses enfants ne sont pas là et qu'ils sont à l'école. Alors, on en parlait avec Gabriel Attal. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Mais ce sera intéressant d'entendre le témoignage de Sylviane, qui ne comprend pas que ce sujet soit mis à l'honneur, puisqu'elle habite la Creuse et qu'il n'y a ni internet, ni jeune. Voilà, ce matin encore, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas, et merci à Gabriel Attal d'être resté avec nous. Face à Cantelou, qu'on retrouve donc dès demain, 8h50 sur RMC, et dans un instant, le vrai programme, Alain.
Effectivement, les GG, les grandes gueules, dans un instant, on reviendra sur la décision du gouvernement de mettre fin au financement du permis de conduire via le compte professionnel de formation. C'est quand même un quart des gens qui passent leur permis grâce à ce CPF. Vous venez en discuter, vous venez commenter ça avec les GG au 32-16 en direct de 9h à midi.